Politeia, portrait d'élu de proximité. Une émission réalisée par Véronique Leroux et Margot Bonnet.
Pierre-Maille, bonjour.
Bonjour.
Alors, une fois n'est pas coutume, la saison 2024-2025 de Politeia, émission mensuelle de Transistor, qui donne la parole aux élus des petites communes du Finistère, se termine avec un élu local de proximité, un peu particulier, puisque pendant 13 ans, vous avez dirigé une ville à la pointe du Ponant qui est devenue métropole. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Maille, élu maire de Brest et président de la communauté urbaine à 35 ans, avant de devenir le premier président socialiste du Conseil général du Finistère en 98. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, on va s'intéresser plutôt à la partie au moment où vous étiez maire. Et comme c'est de tradition dans cette émission, je vais vous demander de partager avec nous les trois mots pour vous décrire en tant que maire à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on disait de vous ? Ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire de vous ? Les trois mots, ouais, qui vous viennent.
D'abord, c'est une histoire ancienne. Et les trois mots, je ne sais pas. Moi, j'aurais dit avoir envie de faire, avoir envie d'écouter et avoir envie de partager, de faire ensemble avec d'autres.
Ok. Faire, écouter et partager avec d'autres. Alors, je vais vous demander un petit peu ce que vous mettez derrière ces trois mots-là, évidemment.
Alors, faire, ben, si l'on est élu ou si l'on a voulu être élu, c'est que l'on avait quelques idées ou quelques envies par rapport au territoire sur lequel on est élu ou pour lequel on a été élu. Et donc, c'est faire des choses, s'occuper des personnes, c'est s'occuper des familles, s'occuper de la ville, voir comment elle évolue, voir comment on peut imaginer son avenir. Donc, c'est faire. Mais pour faire, on ne fait pas tout seul. Donc il faut aussi écouter beaucoup, c'est la fonction du maire essentiellement, écouter ses interlocuteurs, écouter les gens qui viennent le voir, écouter les avis des professionnels, des techniciens, écouter bref, ce qui se dit, et essayer d'en faire son profit, bien entendu. C'est pas parce qu'on écoute qu'on fait tout ce qu'on nous dit, bien entendu aussi. Et ensuite, on ne fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut faire ensemble, faire avec, partager. D'abord, faire comprendre ce que l'on veut faire, vérifier. Et puis, savoir prendre les avis qu'il faut pour corriger, infléchir, faire évoluer ce que l'on a dans sa tête.
Alors, on va y revenir à tout ça, notamment l'écoute, le faire ensemble. Peut-être qu'on va reprendre depuis le début. Alors, vous êtes devenu maire et président de la communauté urbaine. Vous aviez 35 ans. C'est jeune. Comment c'est possible, ça, de devenir maire d'une si grande ville, si jeune et si vite, finalement ?
Bon, je ne suis pas sûr que ce soit exceptionnel. Mais c'est aussi une série de hasards ou de circonstances qui ont amené à cela. Moi, je n'étais pas brestois. Je suis arrivé ici, à Brest, et celui qui a conduit la liste qui a été élu m'avait sollicité pour participer avec lui à cette aventure municipale. Dans l'idée que nos chances d'être élu étaient minimes. Mais finalement, sa prédiction s'est avérée totalement fausse puisque sa liste a gagné. Et donc je me suis trouvé embarqué avec lui dans cette aventure. Plus tristement, ensuite, celui qui est Francis Levet, qui avait conduit la liste, est décédé en cours de mandat. Bon, il était jeune, c'était pas très prévisible non plus, et j'ai été amené à prendre sa suite. Voilà, donc c'est une série un peu de circonstances de hasard qui aurait pu se dérouler de façon très très différente.
Alors en 82, quand vous devenez maire à la suite du décès, on peut le nommer quand même de Francis Leblay, c'était lui, vous êtes encore professeur de physique en classe prépa. Vous avez aussi des enfants qui sont petits, en bas âge. Alors comment vous arrivez à tout concilier? Il y a la vie pro, il y a la vie de famille, il y a l'engagement d'élu. Comment on fait dans ces cas-là?
On fait comme on peut, mais ça me paraît pas très. Ça ne m'a jamais paru très difficile. D'abord parce que moi je me lève très tôt le matin, donc je fais plein de choses le matin, avant même que la journée ne commence. Et puis, c'est une organisation familiale, un partage des tâches. Mon activité professionnelle me plaisait, donc j'ai continué encore un peu. Puis finalement, j'ai arrêté pendant le temps où j'étais maire d'enseigner. Mais non, ça ne m'a jamais paru très, très compliqué.
Alors la question qui me venait surtout à cette époque-là, est-ce que vous pensez que un même parcours aurait été possible à cette époque-là, si vous aviez été une femme?
Je ne sais pas. D'abord, nos listes étaient très très masculines. Les listes municipales étaient très masculines. Il n'y avait pas encore la loi sur la parité, qui a amené par la suite d'avoir la moitié du conseil municipal composé de femmes. Mais il existait déjà à l'époque des femmes maires, qui, dans des communes voisines, menaient leur travail de maire avec compétence et efficacité. Donc, ça aurait pu être possible.
Alors, très vite, vous saisissez manifestement l'importance d'embarquer l'ensemble de vos collaborateurs et agents dans l'aventure brestoise. J'ai retrouvé sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous les avez vus, des rushs qui ont été réalisés en 1991, mis en ligne par la Cinémathèque de Bretagne, et sur lesquels on vous voit en capitaine de navire. Je vous vois faire une moue, vous irez voir. On vous voit en capitaine de navire à la barre d'un magnifique voilier. D'ailleurs, vous ne cessez de barrer. Et vous appelez chacun à jouer son rôle à vos côtés. Vous vous rappelez de ce moment ou pas?
Pas du tout. Pas du tout.
Donc voilà. Et alors, je vous donne juste un ou deux éléments, parce que ça résonne un peu avec ce que vous avez dit en introduction. Et vous martelez, c'est assez drôle de vous voir parce que vous êtes un peu perturbable et puis vous barrez. Et en gros, le message, c'est tous à la manœuvre, tous indispensables et chacun a son rôle à jouer, chacun doit se sentir bien à bord, etc. Alors concrètement, comment on fait ça quand on est maire? Vaste sujet.
Une question de vie, je ne sais pas. Comment on fait?
Comment on fait, par exemple, dans son équipe? Parce que si on commence déjà par le premier cercle, c'est au début, vous allez me dire si je me trompe, mais au début, il y a un collectif d'individus qui dit « moi, je partage, je veux bien venir avec toi », c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Francis Leblé, qui dit « est-ce que tu veux venir? On va peut-être perdre, mais bon, est-ce que tu veux venir ?» Bon. Et comment, tout d'un coup, on fait en sorte que tout le monde embarque vers le même objectif, et tout le monde monte à bord et que chacun joue son rôle, comme vous dites.
L'avantage d'une liste pour des élections municipales, c'est que d'abord, on se choisit entre nous. Même si les partis politiques, ce qui est le cas dans les grandes villes, ce qui était le cas à Brest, les partis politiques jouent un rôle dans la sélection des candidats, nous nous connaissons, enfin, à cette époque-là, en tous les cas, nous nous connaissions tous. Nous avions déjà eu l'occasion d'échanger, de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, ne serait-ce que dans la préparation des élections. Donc, c'est sans doute assez facile de constituer une équipe de gens qui se sont choisis, qui se connaissent et qui ont déjà un peu l'habitude de travailler ensemble. Même si, bien entendu, la liste municipale est composée d'éléments divers, puisque c'est aussi une alliance entre organisations politiques et qu'il y a des gens que nous connaissons moins. Mais finalement, l'objectif pour tous est le même, c'est-à-dire de réussir par rapport à un engagement qui a été pris sur un programme qui a été affiché, qui a été distribué, qui est connu. Donc nous savons à peu près quel est l'objectif que nous poursuivons. Après, bien entendu, il faut trouver une place pour chacun. Alors c'est toujours un peu de discussion. Quelle responsabilité pour un tel ou un tel? Comment définir des frontières entre des territoires? Comment mettre en valeur les personnalités ou canaliser celles qui sont un peu envahissantes et motiver ceux qui sont un peu plus timorés? Mais voilà, après c'est un travail de groupe où au bout d'un certain temps, chacun finit par trouver sa place et sa bonne place.
Alors un peu plus loin dans l'interview, je sens que vous allez vous précipiter pour regarder quand même ces rushs. Vous êtes toujours en train de barrer, je vous précise. Vous êtes en veste de car rouge. Je ne sais pas si les souvenirs vous reviennent. Et vous évoquez comme vous l'avez fait en début là, d'émission, l'importance de l'écoute et l'importance d'animer le dialogue. Alors vous-même, qui êtes issu des sciences dites dures, la physique, qu'est-ce qui vous a amené vers les sciences molles, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, ou si on le dit en bon français, comme on dit, les capacités comportementales? C'est quelque chose qui vous intéresse?
De toute façon, on a besoin de ces sciences-là, si je puis dire. En tous les cas, on a besoin.
On n'a pas le choix.
On a besoin. On travaille avec des hommes et des femmes, donc on a besoin de s'adapter, de réfléchir ensemble, de composer avec les uns et les autres. Et finalement, si on n'y arrive pas, ça finit par casser. Donc, je crois que c'est une sorte d'obligation, mais c'est aussi intuitif et il me semble que cela peut se faire assez facilement et naturellement. Même si on a des contre-exemples nombreux d'équipes municipales qui finissent par se casser sur des affrontements de personnes ou sur des incompatibilités d'humeur ou sur des méthodes de travail qui ne sont pas partagées. Bon, mais je n'ai jamais trop rencontré de difficultés dans ce domaine avec les différentes équipes avec lesquelles j'ai été amené à travailler, que ce soit en conseil municipal ou en conseil général. Bon, avec beaucoup de bonne volonté, on finit toujours par s'arranger.
Il y a peut-être un mot que vous auriez pu ajouter aussi à l'écoute et au dialogue, c'est le silence.
Ouais, le silence est utile parfois.
Moi, c'est pas vous qu'on a surnommé le sphinx à un moment donné?
Alors, je pense que c'est pas une bonne interprétation.
D'accord.
Je n'ai jamais considéré que, en particulier les séances de conseil municipal ou ensuite de conseil général, je n'ai jamais considéré que c'était des séances de cinéma ou de spectacle. Souvent, on a l'impression, quand on lit un compte-rendu dans la presse, que l'on a assisté à une pièce de théâtre où se sont affrontés un certain nombre d'acteurs. Sachant que, éventuellement, ça s'est terminé en pugilat ou en match de boxe, où chacun donne des coups, essaie de répondre, et qu'une fois la pièce terminée, dans la coulisse, tout le monde va boire un verre ensemble. Je n'ai jamais considéré que la vie politique, c'était cela, mais que, quand on a un débat en conseil municipal, chacun dit ce qu'il a à dire. On n'est pas obligé de répondre systématiquement à chaque propos pour essayer d'avoir le dernier mot, comme si on était le plus fort et que l'on voulait écraser son adversaire. Donc chacun dit ce qu'il a à dire, et puis ensuite, bien, cela, les arguments entendus, cela se termine par un vote. On n'est pas obligé d'être en permanence en pugilat. Donc, de temps en temps, le silence ne fait pas de mal. On n'est pas obligé de répondre à tout.
Le silence est d'or, c'est ça?
Ouais,
et la parole est d'argent, c'est ce qu'on dit en général.
Cela peut être un point de vue.
Si, et ça sera la dernière fois que je parle de ces rushs que je me suis amusée à regarder tout à l'heure. Vous évoquez, et ça c'est intéressant il me semble, l'importance de la formation. C'est-à-dire que vous incitez, alors vous êtes toujours en train de barrer, je fais le geste en même temps que je dis ça, et vous invitez les personnes qui vous entourent, qui font équipe avec vous, que ce soit des élus ou des agents, à surtout aller en formation, parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir. Alors, ma question, c'est pour les élus aussi, les formations, et vous, par exemple, quel type de formation aujourd'hui, avec beaucoup de recul, vous semble indispensable quand on devient maire?
La formation est, à mon avis, indispensable, effectivement, aussi bien pour les élus que pour l'ensemble des personnels municipaux. Parce que la connaissance n'est pas acquise sur tous les sujets pour tout le monde, d'une part. D'autre part, la connaissance bouge, change. Et les situations changent, les états d'esprit changent, la sociologie change. Et on a besoin d'apprendre et de connaître tout cela. Pour les élus, qui sont a priori des citoyens ordinaires, des gens qui vivent leur vie professionnelle, leur vie familiale, et puis qui ont envie de s'engager au service de leur collectivité, de leur ville et des autres. Ils n'ont pas forcément des compétences juridiques, ils n'ont pas forcément des compétences financières, ils n'ont pas forcément des compétences en conduite d'équipe, ils n'ont pas forcément des connaissances en pratique de la réunion publique, du dialogue, ils n'ont pas forcément des connaissances dans l'art oratoire qui est souvent utile pour encourager, convaincre, entraîner. Et donc, en fonction de ça, ils ont besoin de suivre des formations. Et ces formations... D'abord, c'est un droit. C'est un droit. Il existe des financements pour cela. Et puis, elles permettent de mieux exercer son mandat d'élu. Sinon, si on est incapable d'exposer, par exemple, une idée ou un projet devant un public, même si le projet est merveilleux, il risque de ne pas passer ou de ne pas être compris. Donc... Par exemple, savoir s'exprimer, savoir mettre en ordre ses idées, savoir dialoguer sans se fâcher, sans s'énerver, sans renvoyer ses interlocuteurs à leur ignorance, entre guillemets. Je crois que tout cela, ça prend. Et de la même manière, la compréhension de mécanismes financiers, d'un budget, la compréhension de quelques règles juridiques sur l'urbanisme, sur l'aménagement, la compréhension de l'analyse des mouvements de population, de l'organisation de la ville. Bon, je crois qu'il y a pour cela un certain nombre de connaissances, d'expertise qui sont utiles aux élus, même si, je le répète, un élu, c'est un citoyen ordinaire. C'est-à-dire que c'est une fonction d'élu qui est ouverte à tout le monde. On n'a pas besoin, a priori, d'avoir toutes ces connaissances, mais il faut les acquérir malgré tout à un moment ou à un autre.
Alors, tout à l'heure, vous parliez, et préalablement aussi, savoir dialoguer sans se fâcher, etc. Et... les propos rapportés souvent par les maires aujourd'hui concernant la violence, en fait, à la fois qu'ils constatent au quotidien, à la fois entre eux ou avec leurs administrés. C'est quelque chose auquel vous avez été confronté, et quel est le regard que vous portez par rapport à ce qu'on lit, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de violence vis-à-vis des élus.
Alors, personnellement, je n'ai pas, ou en tout cas très exceptionnellement, été confronté à la violence. Bon, il m'est arrivé d'avoir des moments un peu plus compliqués que d'autres. Je pense à des moments de tension dans la ville, avec des grandes manifestations, des grèves, des secteurs professionnels en difficulté ou en péril, avec des salariés très, très fâchés, très énervés. Bon, ça peut arriver, mais je n'ai personnellement jamais ressenti de violence à mon égard. Et je vois que la situation évolue aujourd'hui. Le nombre d'élus, je lis ça dans la presse, le nombre d'élus qui sont confrontés à la violence de leurs administrés, qui sont mécontents d'une décision, ou qui sont pas forcément sur une décision du maire lui-même, d'ailleurs, mécontents de quelque chose, et qui viennent protester, voire frapper, injurier l'élu, cela devient de plus en plus fréquent. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Comment la société évolue de cette façon, mais on trouve aussi cette violence à l'égard des enseignants, à l'égard de certains agents de la fonction publique. Sans doute, c'est un morcellement de notre société où chacun voit son intérêt personnel, voit son petit territoire et pense que tous les autres sont en train de l'agresser. Et la réponse à une agression, c'est aussi une agression en réponse. Bon, est-ce que c'est cela ? En tout cas, notre société... deviennent, de ce point de vue, difficiles pour les élus locaux.
Et donc peut-être que les élus ont un rôle à jouer en termes de modélisation possible aussi, puisque on les regarde.
Je ne sais pas si c'est pour cela s'ils sont agressés parce qu'ils ont donné un mauvais exemple. Moi, je pense qu'ils sont agressés parce que un certain nombre de nos concitoyens sont un peu perdus, excédés par leur situation compliquée, ne voient pas beaucoup d'issue et leur colère s'exprime envers ce qui leur paraît une autorité. Et le maire, c'est l'autorité de proximité la plus facile d'accès, si je puis dire. Donc c'est souvent lui qui vient recueillir cette colère et en subir les conséquences. Mais je ne sais pas si c'est la personne même de l'élu, du maire en question, qui est visée. C'est plutôt sa fonction, ce qu'il représente, l'image, mais pas forcément l'image qu'il donne lui-même.
Alors pour terminer sur une note quand même positive, moi j'aimerais bien que vous partagiez avec nous un souvenir qui vous a marqué, un souvenir vraiment très chouette qui vous reste du moment où vous étiez maire. Et puis après, que vous nous disiez quelque chose qui pourrait donner envie aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes, aux hommes qui nous écoutent, qui pourrait leur donner envie de s'engager dans la prochaine campagne municipale, parce que c'est le moment au service de leur commune. Alors d'abord le souvenir, le chouette souvenir qui vous reste.
Oh, des souvenirs agréables, il y en a beaucoup. De rencontres dans la ville, de personnes qui sont venues me voir et puis qui, après, sont parties ou rassurées ou conseillées ou satisfaites de la réponse qu'elles ont obtenue. C'est un certain nombre de réalisations dans la ville, c'est de rencontrer 20 ans après des jeunes. Un peu moins jeune maintenant, mais qui me disent « Ah, quand j'avais 8 ans, vous êtes venu dans ma classe, vous nous avez parlé du rôle du maire, ou bien vous êtes venu dans ma classe et vous nous avez distribué un dictionnaire. » Donc je rencontre de temps en temps, comme cela, des jeunes gens ou des jeunes filles qui viennent me dire « J'ai tel souvenir de cette époque, ou bien nous avons visité la mairie et puis vous nous avez expliqué le rôle de la citoyenneté, etc. » Bon, ce sont toujours des moments très agréables.
Et là, le sentiment, c'est quoi? C'est le sentiment d'être utile, un sentiment de fierté, c'est quoi?
En fierté, non. Sentiment d'avoir été utile, sans doute, et d'avoir peut-être chez certains semé un certain nombre de graines qui feront qu'ils vont s'engager auprès d'une association. Peut-être qu'ils seront élus demain, peut-être que, en tous les cas, ils auront une conception de la vie en collectivité, en commun, dans laquelle chacun doit être responsable.
Ok, et alors un mot pour nous donner l'envie d'avoir envie de nous engager.
La vie est une vie collective, on ne vit pas tout seul. Une école ne se construit pas toute seule, une route ne se fait pas toute seule, un quartier ne s'aménage pas tout seul. Est-ce qu'on est simplement des spectateurs dans notre cité, dans notre ville, dans notre commune, ou bien est-ce qu'on a envie de participer, de donner son avis, voire de contribuer à des réalisations, à faire que la vie en commun soit plus facile, plus agréable, plus sympathique, plus conviviale? Bon, je crois que c'est cela le rôle de l'élu, c'est de faire en sorte que chacun comprenne qu'il est une part d'une collectivité, qu'il a un rôle à y jouer, qu'il a un avis à donner, et qu'il peut même construire avec les autres.
Thomas, merci beaucoup.
Merci.